Alors, qu'a-t-il pour essayer donc de récupérer cette partie qu'il croit avoir perdue? Qu'a-t-il à sa disposition? Eh bien, il a deux pulsions spontanées, il a deux pulsions d'autoconservation. Il y a d'abord la pulsion dite orale, qui est une pulsion d'alimentation, et puis il y a une pulsion donc dite anale, qui est la défécation. Donc, on va dire que l'inconscient va s'étayer sur ces deux zones, qui sont d'ailleurs des zones érogènes, pour essayer de retrouver donc un état de plénitude, un état donc encore une fois relativement puissant. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples d'ailleurs en réalité. On va dire d'ailleurs que l'inconscient anaclitise sa vie, c'est-à-dire qu'effectivement il s'étaye, il s'agrippe libidinalement parlant. Alors l'enfant va d'abord découvrir sa mère, donc par le réflexe spontané donc de la succion, de la tétée, mais sa mère n'est pas à entendre comme un sujet. Il faut savoir aussi à ce stade-là, toujours en relation avec la période intra-utérine, que la mère, de façon sensitive, de façon olfactive, voire de façon intuitive, est envisagée comme une sphère. C'est-à-dire le sein devient une sphère, donc devient un objet. Vous voyez qu'on a une opposition par rapport à la période intra-utérine, bien sûr, où on connaissait une période anobjectale, et là on va dire que l'inconscient entre en relation objectale. Donc l'absorption constitue ce que l'on appelle un mécanisme d'introjection, c'est-à-dire prendre du dehors et mettre au dedans. Et effectivement, il n'y a qu'à regarder un nourrisson lorsqu'il a tété, il est repu. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, ce qui n'est pas fatalement le cas maintenant d'ailleurs, j'en suis désolée. Et effectivement, on voit quand il s'endort, il est béat. Pourquoi? Parce que donc il a fantasmé, récupéré quelque part une toute-puissance, c'est ce que Freud a appelé le principe de plaisir, et de narcissisme primitif, donc en position anobjectale, il passe en relation objectale au narcissisme primaire. Seulement, les choses vont se dégrader. C'est-à-dire que l'approche du deuxième fantasme va le gêner dans le sens où il va y avoir déjà un processus d'élimination, donc qui va se mettre en place. Donc vous voyez, et Dieu soit loué d'ailleurs, l'inconscient donc va rencontrer l'extériorité un petit peu comme quelque chose d'agressif, puisqu'il va être un petit peu agressé déjà par ce qu'on appelle les coliques du nourrisson, tout aussi passives soient-elles d'ailleurs à ce stade-là. Et même si l'inconscient n'a pas encore acquis le contrôle des sphincters, eh bien, il sent qu'il se passe quelque chose. Donc, on dit que c'est un fantasme d'envahissement. Et il faut savoir aussi qu'il y a un autre désagrément, la faim, FAIM bien sûr, qui va le renvoyer à la notion de perte de vide. D'ailleurs, même si on se plaint toute la journée de trop de travail ou trop d'amis ou trop de famille, on voit en cure et dans la vie, bien sûr, qu'il est beaucoup plus renarcissisant d'avoir trop de travail ou trop d'amis que l'inverse. Donc, cet envahissement par le vide va véritablement perturber l'inconscient, mais il y a une espèce d'oscilloscope qui se produit, il va avoir à sa disposition, donc là maintenant, comme étayage, bien sûr, la défécation. Alors, on appelle ce stade projection contrôle pour deux raisons. Bien sûr, l'inconscient va projeter à l'extérieur ce qui le gêne, mais pour ce faire, il va falloir, du moins le croit-il, qu'il contrôle l'objet. Alors là, il y a deux cas de figure. Il faut savoir qu'à partir du fantasme précédent, l'inconscient déjà a clivé. Il a pu cliver d'ailleurs parce que le traumatisme de la naissance, donc l'angoisse de dissociation, a amené une position schizoïde, c'est-à-dire de rupture, de coupure, voire schizoparanoïde d'ailleurs. Mais malgré tout, si cette perturbation, donc très archaïque, le gêne, il sait faire, il sait couper. Donc, au deuxième fantasme, il a pris l'objet et il l'a clivé, il l'a coupé en deux. Ce bon objet est devenu le mauvais objet. Donc, il pense que les choses sont possibles maintenant pour lui à type de destruction, alors que l'inconscient a déjà ce que l'on appelle un surmoi, c'est-à-dire un censeur, un arbitre à l'intérieur de lui. Les choses sont possibles parce que, après tout, c'est un petit peu une réponse à l'agresseur. Il se dit, j'ai qu'à me débarrasser donc de cet objet qui me gênait. Alors, comment je vais faire? Ben, lorsque je vais me réveiller, par exemple, si j'ai faim, si je suis souillé, ben, je vais pousser des cris. alors qu'ils vont être plus ou moins importants au départ, si la mère est près du berceau, il est bien évident que l'enfant va fantasmer qu'il réussit son contrôle. Donc il va retrouver un état de toute puissance. Mais si la mère n'est pas près du berceau, ce qui est tout à fait logique, bien sûr, dans la plupart des cas, soit qu'elle soit au téléphone, sous la douche, occupée à discuter avec la voisine, eh bien, il va se mettre à hurler de plus en plus. Donc, il va ainsi fantasmer toujours en identification, donc au processus projectif lié à la défécation, il va fantasmer détruire son objet. C'est malgré tout sans compter sur le surmoi. C'est-à-dire que le surmoi va lui rappeler que, d'accord, il détruit l'objet qui n'est pas à sa disposition, l'objet qui déjà l'abandonne, qui ne le reconnaît pas, mais ce bon objet est détruit de fait. Donc, on retrouve une notion de culpabilité qui s'instaure relativement rapidement. Alors, il faut savoir malgré tout que l'inconscient souffre parce qu'il n'a pas encore accepté donc que l'autre est indépendant de lui, est différent de lui. Et toute attente va être quelque chose d'extrêmement douloureux. Cependant, il ne faut pas que les parents culpabilisent. Dans la mesure où il faut que l'inconscient arrive à accepter, bien sûr, le principe de la distance. Et là, on revient à l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'une mère qui saura poser de façon juste la distance, il ne s'agit pas, bien sûr, de récupérer la distance en tant que déni ou en tant qu'abandon, mais permettra à l'enfant de lui offrir le maximum de possibilités pour qu'il respecte l'ordre des choses. Et vous verrez qu'un ordre des choses bien posé amènera à l'acceptation de la loi, donc dans le cas bien sûr de l'identification au père, puisque comme la mère pose la distance, le père va pouvoir imposer la différence, c'est-à-dire la loi. Alors il faut savoir que le problème de la culpabilité, c'est qu'elle vide énergétiquement. Et d'ailleurs, quand on observe aussi un nourrisson, bien s'il a beaucoup pleuré, souvent il s'endort avec des sanglots, il est épuisé, qu'il ait obtenu ou non ce qu'il voulait, par caprice excessif, par demande excessive, d'ailleurs lié souvent aussi à une perte très résistante, donc encore une fois, qui nous renvoie au traumatisme de la naissance, bien sûr. Donc il arrive au stade qui nous intéresse, donc qui est dit le stade du moi perdu, épuisé, fatigué, vidé. Véritablement, il a l'impression qu'il devient complètement inexistant et qu'il est abandonné. Donc, pourquoi aussi ? Parce qu'à ce stade, l'inconscient est incapable de se faire une représentation abstraite des êtres et des choses. À savoir que lorsque la mère part de la pièce, l'enfant va fantasmer qu'elle part avec son moi. Donc, il suffit aussi là d'observer les nourrissons pour souvent constater à ce stade-là qu'ils sont tristes, ils sont apathiques, il faut les stimuler pour obtenir un sourire. On peut constater aussi donc, des états dépressifs donc, du nourrisson qui peuvent être même très résistants. Donc on voit que les choses se sont accumulées et si l'on remet dans le contexte, bien sûr, les fameuses difficultés familiales que j'ai introduites tout à l'heure, ou lié bien sûr à un héritage transgénérationnel, je vais y venir rapidement, puisque tout à l'heure, Xavier Santoni donc, vous les a développés longuement, eh bien, on peut assister donc à une fixation abandonnique qui va donner lieu bien sûr à des pathologies plus ou moins lourdes dans l'existence.